France Inter.
Défendre la liberté d'expression, c'est l'affaire de tous. Et parce que cette liberté est menacée violemment, férocement, depuis plusieurs années, dans le pays même des droits de l'homme. Plus de 90 médias français, dont Radio France, publient une tribune ce matin. Bonjour Alexandra Hacoun.
Bonjour.
Spécialiste médias à Inter. Cet appel est lancé alors que l'équipe de Charlie Hebdo est de nouveau menacée de mort par Al-Qaïda. On a entendu hier le témoignage dans ce journal de la DRH de Charlie Hebdo, obligée de quitter précipitamment son appartement. Le journal satirique a en effet republié les caricatures de Mahomet à l'occasion du procès des attentats de janvier 2015. Alexandra, cette tribune rappelle ce matin que la liberté de blasphémer en France existe et que la défendre, c'est défendre tout simplement la liberté.
Oui, une liberté qui nous concerne tous. Pas de corporatisme dans la démarche, simplement un constat. La violence des mots s'est peu à peu transformée, écrivent les auteurs du texte, en violence physique. Oui, aujourd'hui, en 2020, poursuivent-ils. Certains d'entre vous sont menacés de mort sur les réseaux sociaux quand ils exposent des opinions singulières. Des médias sont ouvertement désignés comme cibles par des organisations terroristes internationales. D'où cette initiative du jamais vu pour rappeler qu'en France, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article qui précise aussi, rappelle les auteurs, que la liberté de communication des pensées et des idées est un des droits les plus précieux de l'homme. Pour chaque signataire, ces libertés sont comme l'air que l'on respire et cet air se raréfie. Alors ils nous disent, il ne tient qu'à vous de vous en emparer. Oui, vous avez le droit d'exprimer vos opinions et de critiquer celles des autres en respectant les limites fixées par la loi, bien sûr. Le texte rappelle d'ailleurs au passage que le délit de blasphème n'existe pas en France. Et de conclure, nous avons besoin de votre mobilisation, du rempart de vos consciences pour chasser la peur et faire triompher notre amour indestructible de la liberté.
Merci Alexandra Hacoun. Et cette tribune, Ensemble défendons la liberté avec un grand L, est à retrouver bien sûr sur franceinter.fr.
Il est 7h03, Agnès, le congé paternité va passer de 14 à 28 jours.
Emmanuel Macron doit l'annoncer officiellement dans la journée, lors de la visite d'un centre de PMI à Longjumeau dans l'Essonne. 28 jours pour pouponner. Les nouveaux pères ou les deuxièmes parents devraient en bénéficier à partir du 1er juillet 2021. Et ils sont visiblement ravis. Reportage d'Emmanuel Grabé.
Cela fait plusieurs mois que Clément et sa compagne envisagent d'avoir un enfant. À 31 ans, il a vu plusieurs de ses amis devenir parents récemment. Et pour certains, c'est très éprouvant. Il envisage ces 14 jours de plus comme une aide précieuse.
Dans les débuts, c'est très difficile. Ça dépend des enfants. Mais il y a des enfants qui sont très difficiles. Ils ont du mal à dormir, etc. Et s'il n'y a qu'un parent qui s'en occupe, c'est compliqué. Ouais. Si on fait en sorte qu'on puisse rallonger la période pour qu'on puisse être plus posé et appréhender les premiers mois plus facilement, oui, ça me permettrait de rester avec ma femme et mon enfant et de faire en sorte que on passe ça de manière plus facile et que ni l'un ni l'autre soit trop fatigué.
Une situation qu'avait anticipé Georges il y a 4 ans à la naissance de son enfant. Pour laisser sa femme se reposer et assumer pleinement son rôle de père, il avait posé des congés payés à l'issue des 11 jours du congé paternité.
Ça m'a fait à peu près un mois en fait en tout, donc j'ai dû prendre 15 jours de pot comblé quoi. J'estime qu'il fallait plus de temps pour pouvoir mieux se préparer à la situation à long terme. Et la naissance d'un enfant, c'est pas comme acheter une nouvelle voiture, une nouvelle paire de chaussures, j'ai envie de dire, c'est quand même un autre projet, donc 11 jours ça fait un peu court. Parce qu'en plus vous avez la partie administrative, vous avez beaucoup de choses à régler, et en fait 11 jours ça passe très 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 vite.
Un dispositif qui va devenir en partie obligatoire pour inciter les pères à en profiter, ils ne sont pour le moment que 2 sur 3 à y avoir recours.
Emmanuel Grabé. L'épidémie de Covid avec un nouveau conseil de défense d'ici la fin de la semaine, un point presse du ministre de la Santé en fin de journée, et des mesures plus strictes pour Paris qui pourraient être annoncé dans les heures qui viennent, dont l'interdiction de vente d'alcool après 20h. À Lyon, c'est le plan blanc qui a été déclenché dans les 13 hôpitaux de l'agglomération, où la barre des 25% d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid a été franchie. Plus de 10 000 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures en France, 68 décès, et le taux de positivité qui continue de progresser, passant de 5,9 à 6,1%. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre, entouré de plusieurs membres de son gouvernement, dont Olivier Véran, a reçu hier les chefs de parti et des groupes parlementaires. Élodie Forêt.
Ils attendaient des annonces, ils n'auront eu qu'une impression de brouillard, des réponses trop vagues pour les satisfaire. Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France.
On n'a pas le sentiment d'avoir des réponses très précises. Et quand on a posé des questions précises, on n'a pas les réponses qu'on pourrait attendre. Voilà.
L'opposition qui à l'unisson a notamment critiqué la gestion des tests. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée.
On voit bien qu'après le fiasco des masques, on a la bérésina des tests. La politique de test, elle est hasardeuse, elle est hésitante et elle est parfois laborieuse. Et aujourd'hui, on a besoin de résultats et d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur ces tests pour éviter une propagation du virus.
Sur les tests, le gouvernement a de nouveau évoqué la priorisation et l'arrivée prochaine des tests antigéniques. Autre sujet abordé, les protocoles à l'école, les moyens alloués à l'hôpital ou encore la tenue des élections régionales et départementales. Les chefs de parti ont aussi demandé à être davantage associés. Le socialiste Olivier Faure.
La question n'est pas de chercher à piéger le gouvernement, c'est pouvoir contribuer à ce que la parole publique soit unitaire et qu'il y ait une possibilité de ne pas laisser prospérer les fake news. Donc nous sommes de bonne volonté.
Une requête entendue par Jean Castex, il promet de transmettre bientôt au Parlement le plan de gestion prévisionnelle de l'épidémie qui comprend 4 scénarios différents.
C'est l'un des scandales les plus retentissants de ces dernières années au sein de la police. La compagnie départementale de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis fait l'objet d'une quinzaine d'enquêtes de l'IGPN. 4 policiers ont été mis en examen en juillet dernier. 4 autres policiers de la CSI 93 ont été placés en garde à vue hier, soupçonnés de violence et de faux procès-verbal lors de l'interpellation d'un jeune homme. Emmanuel Leclerc.
Les 4 policiers interrogés doivent expliquer ce qui s'est réellement passé au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, dans une cage d'escalier. Pour quelles raisons précises ils ont fait un contrôle d'identité? Pourquoi ils ont asséné un premier coup sur la tête avant de partir et puis de revenir pour en remettre une couche, d'autres coups toujours dans la tête? Et pourquoi l'histoire s'est terminée au commissariat avec un procès verbal où ce sont les policiers qui ont été victimes de violences, outrages et rébellions? Les magistrats de Bobigny et les enquêteurs de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, épluchent depuis des mois tous les comptes rendus des policiers de la CSI 93 soupçonnés de différentes infractions et délits. 17 procès-verbaux sont actuellement passés au crible en attendant le résultat d'un dernier volet de ce dossier tentaculaire. Une enquête de plusieurs mois de la police des polices avec des sonorisations et des filatures qui portent cette fois sur des soupçons de raquettes et de corruption.
Et rappelons que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité tout à l'heure du 8h20 d'Inter. 9 personnes en garde à vue à Marseille dans l'affaire des soupçons de fausse procuration dans un EHPAD. C'était lors de l'entre-deux-tours des municipales. Parmi elles, Yves Morenne, l'ancien maire LR des 6e et 8e arrondissements de Marseille et numéro 2 de la liste de Martine Vassal. Également en garde à vue, l'actuel maire LR des 11e et 12e arrondissements, Julien Ravier.
Il est 7h09, une deuxième chance pour les décrocheurs scolaires.
Et ils sont de plus en plus jeunes, ces décrocheurs. Dans les écoles de la deuxième chance, qui accueillent des élèves de 16 à 25 ans, déscolarisés et sans diplôme, la proportion des 16-17 ans est passée de 6% il y a 5 ans à 19%. À l'occasion aujourd'hui de la journée du refus de l'échec scolaire, Sonia Princet s'est rendue dans l'école de la deuxième chance à Creil, dans l'Oise. Reportage.
Kenny est arrivé à l'école de la deuxième chance en février dernier, à l'âge de 16 ans. Il a arrêté les cours au collège en troisième. Ici, il a retrouvé de la motivation et cherche à entrer dans un CFA, un centre de formation d'apprentis, mais son jeune âge est parfois un obstacle.
C'est plus compliqué pour les moyens de transport, pour les déplacements, tout ça, parce que les CFA ils sont pas si proches que ça selon ce qu'on veut faire. Dans la menuiserie, des fois, ils m'ont pas pris parce que j'avais pas 18 ans. Pour eux, c'était trop dangereux. Pour certains métiers, c'est compliqué.
Si c'est un excédent, ça s'appelle comment ?
Un découvert.
Non, un excédent, ça veut dire qu'on a en plus.
En moyenne, 63% des jeunes trouvent un emploi ou une formation. C'est 53% pour les mineurs. Nicolas Page, directeur de l'école de la deuxième chance Ouest-Somme, confirme que ce public est plus difficile à remettre sur les rails.
On a quand même des jeunes qui ont eu une fracture, en fait, avec le système scolaire. On a de plus en plus de phobies scolaires. On a un jeune de 16 ans qui a déjà décroché depuis 2 ou voire 3 ans. Et là, remettre dans une dynamique de lever le matin, de répondre à des règles, on a quand même des difficultés à pouvoir les intégrer en fait sur une formation, puisqu'on a quand même cette volonté du jeune de ne pas retourner dans un schéma classique de l'école.
L'alternance est la principale solution pour ces 16-17 ans, mais ils doivent d'abord travailler les compétences qui leur manquent et passent plus de temps que les majeurs à l'école de la deuxième chance, en général entre 8 à 10 mois.
Bruxelles présente aujourd'hui sa très attendue réforme de la politique migratoire en Europe. L'incendie du camp de Moria sur l'île de Lesbos il y a 15 jours a rappelé l'urgence de la situation, mais les 27 ont toujours autant de mal à se mettre d'accord sur le nécessaire effort de solidarité. Dans le Zoom de France Inter dans 5 minutes, reportage dans un refuge pour migrants à Briançon menacé de fermeture. Enfin, elle s'est photographiée sous tous les angles, maquillée à outrance, sous le visage nu, empruntant perruques et costumes, une pour dénoncer les dérives et les stéréotypes de notre société. Cindy Sherman, photographe américaine contemporaine la plus célèbre et aussi la plus chère du monde. La Fondation Louis Vuitton présente une rétrospective de son travail à travers 170 œuvres, dont des inédites. Visite guidée avec Isabelle Pasquier.
Jeune fille romantique, star hollywoodienne, sorcière trash ou vieille riche botoxée, à travers des séries iconiques, cela fait 45 ans que Cindy Sherman joue à être toutes les femmes. Son procédé, elle se met en scène dans des photos qui semblent être des arrêts sur image d'un film imaginaire. Son objectif, déconstruire les stéréotypes féminins véhiculés par le cinéma, la mode, les magazines. Et elle le fait avec un humour grinçant. Marie-Laure Bernadac, co-commissaire de l'expo.
Il y a un travail très critique et politique pour déconstruire le regard masculin sur les mannequins, sur la beauté, sur la femme. Il y a une dimension d'humour, de critique sociale, mais il y a une dimension très touchante. Elle le dit elle-même dans ses portraits très cruels qu'elle fait des femmes âgées, bridées, avec leurs prothèses, qui essaient de se vendre à la publicité ou au cinéma. Elle dit « ce n'est pas uniquement critique, j'ai beaucoup de compassion pour ces femmes ». Et la femme peut être un homme, il y a aussi la transgression du genre. Je crois qu'il y a une dimension même carnavalesque, tragicomique dans son travail.
Dérangeante, sa série époque Sida avec des corps violés de poupées désarticulées. Étonnante, ses dernières œuvres, des tapisseries créées à partir de selfies anti-narcissiques, les photos de Cindy Sherman comme des miroirs grossissants des névroses du monde.
Une rétrospective donc, Cindy Sherman à la Fondation Louis Vuitton, à découvrir jusqu'au 3 janvier 2021.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom donc dans 3 minutes sur le refuge pour migrants de Briançon. Va-t-il devoir fermer ses portes?